Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1943, l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre pour faire marcher ses industries. Ses travailleurs sont sur le front de l'Est. Le STO est alors instauré en France. 600 000 travailleurs français partiront en Allemagne, contraints et forcés. Rediffusion d'une histoire en direct proposée pour la première fois sur France Culture le 6 décembre 1993.
L'histoire en direct. Le STO.
Voici que le train démarre. Aux portières, tous nos jeunes amis nous font au revoir. Les fanions des ateliers mécaniques de la Seine sont agités. Nous vous l'avons dit, ces jeunes partent dans les meilleures conditions possibles. Ils vont faire un beau voyage, ils vont découvrir un pays nouveau. Et quand ils reviendront, ils auront acquis un beau métier qui leur servira pour l'avenir.
Paris, Gare de l'Est, 17 avril 1943. Quelques dizaines d'ouvriers français partent travailler en Allemagne. Ceux-là sont des volontaires, les seuls bien sûr auxquels s'intéressent les journalistes de Radio Paris, alors qu'à cette date, l'immense majorité des Français qui partent dans les usines du Troisième Reich y sont contraints, envoyés au titre du STO, le service du travail obligatoire. Depuis le début de la guerre totale dans laquelle s'est engagée l'Allemagne en 1939, Hitler a besoin de main-d'œuvre pour remplacer les millions d'ouvriers, d'employés, de paysans allemands mobilisés par l'armée. Dans tous les pays d'Europe qu'elle occupe, l'Allemagne va donc recruter au total plus de 10 millions de travailleurs. Au début, des volontaires, attirés par des salaires plus élevés que dans leur pays. Mais au fur et à mesure que la guerre se prolonge et devient de plus en plus gourmande en hommes et en matériel, les Allemands sont de plus en plus exigeants. En juin 1942, le responsable du recrutement de la main-d'œuvre dans les territoires occupés, le Gauleiter Fritz Sauckel, demande au chef du gouvernement français Pierre Laval de lui livrer 250 000 travailleurs. Au début, Laval tente de négocier. Il y a encore 1 500 000 prisonniers de guerre français en Allemagne. Pourquoi ne pas en échanger quelques-uns contre des travailleurs français? Il obtient satisfaction. L'Allemagne s'engage à libérer un prisonnier en échange de 3 ouvriers spécialisés. C'est la relève annoncée par Laval le 22 juin 1942.
Depuis que l'Allemagne fait la guerre aux Soviets, la main-d'œuvre d'un grand nombre de nos prisonniers lui est devenue indispensable. Pendant ce temps en France, les matières premières nous manquent. Nos usines travaillent au ralenti. Le chômage s'aggrave. De nombreux ouvriers sont sans travail alors que l'Allemagne a un besoin urgent de main-d'œuvre. Dans cette situation, un nouvel espoir se lève pour nos prisonniers. Je sais que ce n'est jamais en vain qu'on fait appel à la raison et à la générosité des ouvriers de France. C'est vers eux que maintenant je me tourne, car c'est d'eux, pour une large part, que va dépendre désormais le sort de nos prisonniers. S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller travailler en Allemagne, je sais qu'ils y trouveront bon accueil, qu'ils toucheront d'abord une prime de séparation, des salaires élevés, et qu'ainsi ils assureront la vie de leur famille, auquel ils pourront envoyer mensuellement une partie importante de leurs gains. Ouvriers de France, C'est à vous que des prisonniers devront leur liberté. C'était les soldats pendant la guerre qui exposaient leur vie pour protéger le labeur des ouvriers. Aujourd'hui, par une de ces péripéties émouvantes qu'amènent les grands drames, ce sont les ouvriers qui peuvent rendre aux combattants le bien qu'ils ont reçu d'eux. C'est la relève qui commence.
En travaillant en Allemagne, tu seras l'ambassadeur de la qualité française.
Fini les mauvais jours. Papa gagne de l'argent en Allemagne.
Ohé, camarade, viens avec nous. En Allemagne, nous sommes heureux et gagnons bien notre vie. Viens te renseigner au centre d'adaptation professionnelle.
Sa famille ne manque de rien. Il travaille en Allemagne. Ils donnent leur sang.
Donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme.
François Cavanna, en juin 1942, le gouvernement de Vichy lance la campagne pour la relève. Il s'agit d'inciter les Français à aller travailler en Allemagne, moyennant des plus gros salaires, moyennant aussi la libération de prisonniers de guerre. Qu'est-ce que vous pensiez à l'époque de cette campagne pour la relève ?
Il ne faut pas oublier que la France de l'époque vivait sous le signe du prisonnier sacro-saint. Nos prisonniers. La France, c'était une France pleurnicharde. Moi, j'avais 17 ans quand les Allemands sont arrivés. J'étais un môme. Et je me rappelle très bien cette France qui était devenue Curton, qui s'auto-accusait, qui c'est de notre faute, on a trop voulu bien vivre, les 40 heures, les lois sociales, Léon Blum, les grèves de 36, ah, on le paye cher maintenant. Le mot d'ordre était de nous persuader qu'on avait bien mérité ce qui nous arrivait, qu'il fallait être très gentil, bien obéir à l'occupant, pas faire de la peine au maréchal, des trucs comme ça, quoi. Travail, famille, patrie. Bon, et dominant tout ça, il y avait le mythe du prisonnier. Il y avait partout des affiches sous toutes les formes. On voyait des prisonniers en haillons, mais l'œil clair, qui espérait dans la mère patrie et tout ça, c'est pour eux. Alors, le prisonnier dominait tout.
Il y avait une pression morale en France.
Jean Chaise.
Cette pression morale, elle venait à la fois des familles. Elle venait aussi de l'Église catholique française, hein, où il y avait toujours ce devoir à l'égard, par exemple, des prisonniers. Il fallait que les jeunes se dévouent pour les anciens. Et ça, on nous l'a dit.
On n'attendra de moi aucune équivoque.
Marcel Déa.
Je ne trouve ni exorbitant ni scandaleux que l'Allemagne demande à la France de l'aider par son travail. À l'heure où toutes les forces germaniques sont jetées dans la bataille pour la défense commune, la jeunesse de France doit logiquement assumer au service du pays une charge qui lui revient comme un honneur, moyennant quoi les vieux qui attendent en vain une relève promise la connaîtront sans doute.
Monsieur Pierre a du travail, mais il ne semble pas tenir beaucoup à sa situation actuelle. Gagnez-vous suffisamment ?
Ben, en temps normal, il n'y aurait pas à se plaindre. Maintenant, avec ma femme et les deux gosses, j'ai souvent du mal à y arriver.
Et vous espérez gagner plus en Allemagne ?
Ben, je comprends. Je n'aurais certainement pas de mal à gagner plus du double.
Mais qui vous dit que vous gagnerez plus du double ?
Ben oui, c'est dans les contrats.
Votre départ pour l'Allemagne assurerait donc pour votre famille et pour vous-même une existence plus large.
Oui, d'abord, oui, mais ben, je suis curieux de savoir si la vie en Allemagne est possible pour un Français.
Le mieux, c'est d'y aller voir. Depuis quelque temps, mes chers auditeurs, vous avez pu vous rendre compte par la lecture des journaux que les départs des travailleurs français pour l'Allemagne allaient en s'accentuant. Depuis l'appel émouvant du président Laval, que de chemin parcouru. Par dizaines de mille, nos compatriotes désirant assurer la relève se sont inscrits.
C'est la propagande qu'on entendait tous les jours à la radio, dont nos parents, malheureusement, étaient secoués parce qu'ils se disaient il y a une image qui est donnée, etc., tu seras heureux. Il y avait toute cette propagande, car à l'époque, un certain nombre de miliciens et un certain nombre de fonctionnaires de Vichy avaient pris des bonnes habitudes avec la propagande de Goebbels. Hein. C'est vrai que la propagande de Goebbels était une propagande très efficace, très fine, et qu'elle faisait des émules.
C'est un départ bien sympathique que nous assistons ce matin sur le quai de la Gare de l'Est, mes chers auditeurs. En effet, les jeunes des ateliers mécaniques de la Seine, un nouveau contingent de jeunes des ateliers mécaniques de la Seine, part pour l'Allemagne. Vous savez que ces jeunes gens ne partent pas à l'aventure, qu'ils partent volontairement travailler dans les usines des ateliers du Reich, encadrés par les secrétaires, le secrétariat à la jeunesse, par les moniteurs techniques et des moniteurs du secrétariat à la jeunesse. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire que l'animation est à son comble. On est en train de charger les valises, on charge également le ravitaillement, qui est fort important et impressionnant, même du pain, du vin, enfin un tas de choses. Madame de Saps est là, bien entendu, elle est venue accompagner ses grands garçons, n'est-ce pas, Madame de Saps?
Mais oui, je suis contente, aussi, hein. Naturellement, oui. Vous savez, sans mes fils presque. Depuis 3 mois qu'on les a soignés, gâtés autant qu'on a pu à l'usine, c'est normal que je sois là aujourd'hui au moment de leur départ.
Bien entendu.
D'ailleurs, ils partent, je suis absolument sans inquiétude à leur sujet. Ils sont tous joyeux, ils sont tous en forme. Ils partent avec leurs valises bien garnies, avec tout ce qu'il leur faut pour manger en route. Et je suis sûre que le voyage ne manquera pas de charme pour eux.
J'en suis persuadé.
Malgré les efforts de la propagande, la relève est un échec. En septembre 1942, sur 150 000 volontaires prévus, 17 000 seulement sont partis. Le 4 septembre, poussé par Sauckel, Laval fait alors voter une loi permettant au gouvernement français de contraindre les hommes de 18 à 50 ans à effectuer tous travaux que le gouvernement jugera utiles dans l'intérêt supérieur de la nation. Les travailleurs sont recensés. La chasse aux chômeurs et les premières réquisitions de main-d'œuvre commencent. L'étau allemand se resserre. En janvier 1943, Sauckel exige l'envoi de 250 000 travailleurs supplémentaires en Allemagne. La relève n'y suffira pas. Alors, le 16 février 1943, Laval prend une décision que réclament depuis des mois les Allemands et certains collaborateurs. Marcel Déa.
Je dis que nous devons envisager dès maintenant une relève plus ample, une relève totale, et il suffira sans doute le moment venu que la main-d'œuvre française ne soit ni déficiente ni défaillante, et toutes les mesures doivent être envisagées, y compris, je le dis en pesant mes mots, la mobilisation de ceux des jeunes qui n'ont point été appelés à faire la guerre et qui même n'ont point connu la caserne, qui même n'ont point connu les chantiers de jeunesse. Car je ne trouverai pas scandaleux, quant à moi, que les jeunes générations fussent appelées à tenir un minimum de discipline et de sacrifice.
Loi du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire. Le chef du gouvernement, le conseil des ministres entendu, décrète. Pour tout Français ou ressortissant français du sexe masculin, âgé de plus de 20 ans et résidant en France, les obligations résultant des dispositions de la loi du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'œuvre comportent notamment l'exécution d'un service du travail obligatoire. La durée du service du travail obligatoire est fixée à 2 ans. Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs. Fait à Vichy, le 16 février 1943. Pierre Laval.
Il faut toujours repenser qu'à l'époque, tous les corps constitués, que ce soit les mairies, que ce soit la police, que ce soit les préfectures, que ce soit les gendarmeries, exécutaient des ordres. Et ces ordres étaient absolument impératifs. Il fallait absolument trouver des travailleurs pour satisfaire l'occupant. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Hein.
La guerre devenait vraiment gourmande. Il fallait lui donner à bouffer de plus en plus de bonne viande arienne mâle, même si un peu sénile, un peu boiteuse, un peu tubarde. Et pour cela, d'abord la remplacer, la viande arienne, aux commandes des machines-outils, par de la viande inférieure, voire nettement méditerranéenne. D'où bing, création du service du travail obligatoire. STO pour les intimes. service du travail obligatoire. Dit comme ça, ça fait vaguement service militaire, ça rassure les parents, les replace dans le droit fil de la tradition. Depuis qu'ils sont là, il n'y a plus d'armée. Les vieux bougonnent que ça te donnera des hommes sans couilles. La jeunesse lui faut de la discipline et de l'aventure, du coup de pied au cul et de la soulographie de chambrée. Mais sinon, il n'y a plus personne dans la culotte. Cavana, Leruskov.
La loi instituant le STO en février 1943 ne précise pas que les travailleurs requis peuvent être envoyés en Allemagne. Certains d'entre eux resteront d'ailleurs en France, dans les usines qui travaillent pour les Allemands ou sur les fortifications du mur de l'Atlantique construites par l'organisation Todd. Mais les autres, plus de 600 000, découvriront leur destination quelques heures à peine avant leur départ.
Préfecture de l'Hérault. Service du travail obligatoire. Le préfet délégué à Monsieur Labour Jacques. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que vous avez été désigné par la commission compétente pour être affecté à un travail en Allemagne. Je vous invite à vous présenter le mercredi 15 septembre de 8h à 12h à Montpellier, Hôtel Terminus. Vous voudrez bien vous munir de vêtements de travail, de vêtements chauds, de chaussures de fatigue et de sortie, de provisions de voyage pour 2 jours, ainsi que de 3 photographies d'identité nécessaires pour établir votre passeport. Le préfet délégué, Jean Benedetti.
C'était la gendarmerie française qui portait les convocations.
Roger Jaillot.
Et dans les gendarmes, il y avait 2 catégories de gendarmes bien distinctes. Il y avait le gendarme qui, après la 2e ou 3e convocation, disait au gars, cette fois-ci, méfie-toi, faut te camoufler. Alors, soit il trouvait à se camoufler, soit il est obligé de partir. Et puis, il y en a d'autres, vraiment, qui incitaient les Français, les jeunes, à partir en Allemagne.
Ils obéissaient aux ordres, quoi.
Jean Chaise.
Ils étaient des fonctionnaires, et ils étaient en même temps des militaires. Et nous, les jeunes, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et puis aussi, il faut dire que nos familles, leur formation, il faut bien se repenser à l'époque, étaient très respectueux de l'ordre. L'ordre établi, et il n'était pas question pour ma mère ou pour mon père d'aller contre l'avis de la gendarmerie ou contre l'avis de la préfecture. C'était l'ordre. C'était l'ordre qui était représenté. Aujourd'hui, l'ordre dans la vie de 1993-94, bon, on essaye de la contourner, mais à l'époque, c'était pas le cas.
Pour obliger les gens à partir, les gendarmes, à la première convocation, bon, ça se passe à peu près, à la deuxième, ils commençaient par réclamer des cartes d'alimentation. Alors, attendez, pas de cartes d'alimentation. Dans les campagnes, il y avait encore moyen de zébrouiller, mais dans les villes, sans carte d'alimentation, qu'est-ce que vous vouliez faire? Et puis alors, je voudrais vous citer une anecdote. Par exemple, parler des personnes qui partaient à la place de leur fils, de André Martin, aux aciéries d'Infi, en 1942, réquisitionnées, hors de départ. L'ordre de départ était affiché à la porte de l'usine, avec les noms et ainsi de suite. Il a vu son nom, il n'a jamais remis les pieds à l'usine. Seulement 2-3 jours après, on a pris Edmond Martin, son père, qui avait 44 ans à l'époque, et qui est parti en Allemagne à sa place. Alors, un fils qui avait un exemple comme ça devant les yeux, véritablement, il se voyait obligé de partir, ou c'était son père qui partait.
Paris, Monsieur Henri Braun. Monsieur, vous êtes tenu de vous présenter au train qui quittera la gare de l'Est à destination de l'Allemagne le 19 février 1943, à 7h. Vous devrez vous munir au préalable du certificat d'embauche qui est tenu à votre disposition au bureau d'embauche de votre employeur. Si vous ne vous présentez pas au départ du train, ou si vous abandonnez le train en cours de route, des sanctions seront prises contre vous par l'autorité militaire allemande. Commandant von Großparis, Verwaltungsstab.
Quand j'ai reçu cette convocation,
Henri
tout de suite, je suis allé à la campagne de la Marne, 130 km à bicyclette, parce que nous n'avions pas les moyens de nous payer le train. Et c'est là que j'ai demandé où habitait ma grand-mère, là, dans Champagne, où est-ce que je pourrais me cacher, et mon frère aussi. Et c'est là que je me suis adressé au maire de l'époque. Non, tu comprends, je ne veux pas faire de papier, de faux papiers et tout. Les familles de prisonniers nous disaient, ben oui, Riri, parce que c'était mon nom dans le petit petit village. Tu es là alors que nous avons nos maris qui sont là-bas. Et tu ferais peut-être que tu fasses un effort. Alors on se sentait un peu culpabilisé de tout cela. Enfin, finalement, je n'ai pas trouvé d'endroit pour me cacher. D'autant plus qu'il n'y avait encore aucun maquis à l'époque.
L'Amérique en guerre vous parle. L'Amérique vous parle aujourd'hui de la résistance du peuple français au décret de travail forcé signé par le Gauleiter Herr Sauckel et appliqué par le Gauleiter Pierre Laval.
En déclenchant sa campagne pour l'envoi de volontaires en Allemagne, le gouvernement de Vichy se conformait au plan d'Hitler. Quel est ce plan? La réponse est simple.
Tout d'abord, Hitler a besoin de main-d'œuvre étrangère et surtout de main-d'œuvre spécialisée. Les pertes énormes subies en Russie, et particulièrement à Stalingrad, l'obligent à faire des soldats avec ses propres ouvriers. Il essaye de les remplacer par des Français. Et pour attirer les Français, il promet de leur rendre un prisonnier contre 3 spécialistes. Laval appelle ce mauvais marché la relève des prisonniers. En réalité, il ne s'agit que d'une relève des ouvriers allemands par les ouvriers français.
Ne va pas en Allemagne, 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 ne va pas en Allemagne.
À l'époque, tout autour, et il n'y a qu'à regarder les journaux de l'époque, le mot résistance n'existait pas. On parlait même pas de maquis, le mot de maquis est venu après. Hein. On parlait de terroriste. En 1942, j'étais dans les chantiers de jeunesse. Bon, c'est pareil aussi, on était un peu isolé dans les chantiers de jeunesse. Hein. Isolé du monde. On recevait que les directives, que les analyses que nous pouvaient nous donner nos chefs. Je ne dis pas que ces directives étaient contraires à un esprit civique, pas du tout. Mais nous n'avions pas les commentaires que d'autres pouvaient avoir. On parle de radio, mais la radio de Londres, quels sont ceux qui les écoutaient vraiment, hein? Donc on était relativement laissés à nous-mêmes.
Allemagne, c'est partir pour le bagne.
C'est moi, je suis parti exactement le 20 février 1943.
Cavana.
J'avais 19 ans, enfin presque 20. Et on s'est retrouvés comme des cons sur le carreau de la gare de l'Est, je me rappelle encore, assis par terre. On avait juste le temps de prévenir pour faire nos valises et tout ça. On pensait qu'on allait nous emmener faire du boulot, quoi. On ne savait pas où on allait. On pouvait très bien aller en France aussi bien. Ah, on ne savait pas. On était requis. Ça aurait pu aussi bien être pour aller travailler dans les champs, et on le croyait beaucoup, ça, que c'était pour aller remplacer les paysans. Qui, parce que, encore une fois, jamais les Allemands ne se sont montrés. À peine dans le train, alors là, on a commencé à comprendre, parce que des types de la milice, et puis des types, vous savez, avec le béret, et puis d'autres en imperméable, des civils, je ne sais pas trop ce que c'était, moi, des flics ou ce que vous voudrez, se sont mis avec des pots de peinture blanche, à barbouiller sur les wagons du train, vive la relève, vive Pétain, des conneries comme ça. Et il y avait des mecs des actualités qui étaient là à photographier. Alors là, on a commencé à comprendre.
Un nouveau contingent, des jeunes volontaires de la relève, part pour l'Allemagne. Ils partent, je crois, pour Berlin, ils sont 47, et sur le quai de la gare, en attendant que le train s'en aille, nous allons, si vous le voulez bien, interviewer quelques-uns, et surtout les parents. Comment t'appelles-tu, toi ?
Devaux.
Devaux. Alors, ce sont tes parents qui sont venus t'accompagner ?
Oui, monsieur.
Vous êtes la maman, madame ?
Oui, monsieur.
Alors, votre grand garçon s'en va ?
Ben oui, malheureusement.
Naturellement, un petit peu embêté, bien sûr, je comprends ça. Ben, vous savez, vous voyez dans quelles conditions il part dans de bonnes conditions. Hein. avec tous ses camarades, vous voyez que le départ est joyeux. Naturellement, je comprends ça parfaitement. Enfin, il va apprendre un bon métier, vous n'en faites pas, et il reviendra gaillard. D'ailleurs, il est déjà gaillard. Merci. Alors, t'es content de partir, toi?
Oui, monsieur.
Ça marche?
Oh, ça va.
Est-ce que t'as bien travaillé au moins aux ateliers mécaniques?
Bah, jusqu'à maintenant, ils sont pas trop mécontents de moi, quoi. Oui. J'espère continuer.
Tu pars comme quoi, toi?
Comme tourneur.
Oui. Bon, eh bien, bravo. Ben, mon vieux, je te souhaite bon voyage et bonne chance.
Merci beaucoup. Merci. Monsieur.
Quand je suis parti, je revois encore. On était sur une place. Je revois encore mes parents qui étaient à la porte, qui m'ont regardé partir. Je me revois encore partir, si vous voulez, en direction de la gare, accompagné de mes frères. Mais c'était pas du tout une ambiance joyeuse, hein. Pas du tout, du tout. C'était vraiment une ambiance de tristesse et tout le monde savait. On savait très bien que nous étions obligés, requis, contraints à partir et que. C'est vrai qu'il y avait aussi des représailles, puisque c'était le terme qui était utilisé, il y avait des représailles, et que des parents, des frères étaient requis à la place.
La déportation continue, chaque jour plus méthodique et mieux organisée. On recense tous les jeunes hommes entre 20 et 30 ans sous la surveillance des autorités occupantes. Depuis 8 jours, ils font la queue dans les mairies pour se faire inscrire comme forçats. Désespérante mais désormais inévitable docilité. Si le climat avait été à la résistance, si toutes les administrations avaient été complices pour saboter les ordres, il eût fallu aux Allemands des armées de policiers pour rassembler les convois de forçats. Mais dans la situation actuelle, il ne reste plus aux courageux à peu près aucun moyen de s'échapper, sans papier, sans carte d'identité, d'alimentation. L'ensemble de ce pays n'est plus qu'un protoplasme peureux. Aucune pensée n'intervient plus nulle part. Comment remonterons-nous de cette honte et de cet avilissement? Jean Guéhenault, 22 février 1943.
Quelques personnalités officielles sont venues également dire au revoir à nos jeunes amis, à nos jeunes camarades. Monsieur Mazella, qui est du cabinet de Monsieur de Brinon, est venu ici également. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce départ?
Je suis très heureux de voir l'enthousiasme des jeunes qui partent en Allemagne, parce que je crois qu'ils ont compris qu'ils partent non seulement pour la relève, mais aussi pour contribuer à la lutte contre le communisme, en forgeant des armes pour ceux qui se battent à l'Est, afin de nous préserver, nous et notre civilisation, aussi bien que l'Europe.
Notre départ était fixé au 19. Alors finalement, on a pris notre valise, on a dit on arrivera toujours à se débrouiller.
Henri Braun.
Et ils nous tueront pas. Si on arrive à trouver une solution pour se sauver, on verra toujours. Mais bon, finalement, comme un petit peu des moutons de panurge, finalement, on est arrivé à la gare de l'Est. Et alors là, on s'est dit encore, on avait encore un secret espoir de se sauver. Puis d'un seul coup, on est arrivé à la gare de l'Est. C'était une souricière faite de barbelés avec des virages. Le dessus était plein de fils de fer barbelés. On est arrivé sur le quai où il y avait des Allemands avec leurs mitraillettes qui nous attendaient. Et puis, il y en a certains qui avaient marqué des slogans sur les wagons. « À bas Laval, à bas la relève ». Et puis, il faut dire que c'était des wagons de troisième classe. À l'époque, il y avait une cabine serre-frein. Et dans chaque cabine serre-frein, il y avait un Allemand avec sa mitraillette. Alors là, c'est là qu'on a vraiment compris que dans la galère dans laquelle nous rentrions. Mais nous étions insouciants avec nos 19-20 ans. Nous ne pensions pas qu'on allait à un drame.
Lorsque nous sommes partis, on est partis malheureux dans ces wagons avec des soldats armés qui nous accompagnaient, les soldats allemands.
Robert Jordi.
Et je me souviens lors du voyage que nous chantions, comme le dit tout à l'heure, la Marseillaise internationale, quand on traversait toutes les gares. Et je me rappelle, quand on traversait la frontière, il y avait des bonnes dames, des paysannes, habillées dans les assiettes, qui nous brandissaient le drapeau français.
Bon, je me suis retrouvé je crois que c'était à Listerfeld, dans la banlieue de Berlin. C'était un camp, immense camp, dans du sable, barbelé, des cabanes avec des bafflants, pas de lit, rien, on nous a foutu là. Ouais. Et puis, c'était une marché aux esclaves, si vous voulez. C'était là où venaient se servir les firmes du coin. Alors, il y avait des arrivages, et puis les chefs du personnel, ou les chefs de chantier, ou je ne sais pas quoi, venaient se servir. Alors, c'était fait très méthodiquement. Il y avait un médecin, une infirmière, il y avait le chef de camp, et puis on vous alignait sur un, et puis regardez, si un gars voulait des costauds, on lui donnait des costauds. La visite médicale, c'était passé rapidement. On vous dit, on était sur une ligne. Je me rappelle encore, c'était la lueur des projecteurs, parce que c'était la nuit. Et puis, on voyait devant nous les barbelés, là. C'était la première fois que je me trouvais dans les barbelés, vous savez, les barbelés retroussés en l'air, là. Enfin, c'était pas tragique, c'était pas Auschwitz. Mais ça nous est drôle, parce que c'est pas ça qu'on s'attendait. Je vous dis, encore une fois, on croyait qu'on allait arracher des patates dans un coin de France quelconque.
En Allemagne, les conditions de vie que découvrent les Français du STO n'ont rien à voir avec les promesses de la propagande et des contrats qu'on leur a fait signer. Et elles vont s'aggraver au fur et à mesure que la guerre se prolonge. Traités comme des bêtes de somme, presque tous les requis passent l'essentiel de leur vie entre les baraquements insalubres de leur camp et les entreprises allemandes où ils travaillent de 60 à 80 heures par semaine. François Cavanna.
Quand c'était pas les 3-8, c'était les 2-12. Et vous savez, l'aller et revenir du camp à l'usine, c'était un tramway, un Sonderfahrt, un tramway spécial avec des mecs, des surveillants. Et puis, bouffer, s'occuper de son linge, s'occuper de... Il a la hantise, c'était de chercher de dégoter quelque chose à bouffer. C'était surtout à partir de la fin 43 où vraiment c'est devenu très, leur ravitaillement est devenu très très dur pour les chelus. Ils n'avaient plus l'Europe à leur disposition. Et évidemment, les premiers à être privés, ça a été nous. Alors là, les soupes de semoule où on voyait les grains un par un. Bon, enfin, on était pas prisonniers en principe. Hein. En principe, on avait le droit de sortir du camp et d'y rentrer.
Le temps de travail était fixé à 12 heures, 12 heures par jour. Et alors, un mois sur deux, c'était 72 heures, c'est-à-dire donc les 6 jours, sauf le dimanche. Et le mois d'après, c'était 84 heures, c'est-à-dire pendant un mois, on travaillait sans interruption. À tel point qu'ils nous donnaient des petites pastilles de vitamines pour que nous puissions tenir le convoyé. À tel point. Alors 72 heures à mois, 84 le mois d'après, c'était absolument effarant. Et après, on est passé dans ceux qui étaient... Il y a eu des équipes de jour, des équipes de nuit, mais c'était absolument infernal avec les bombardements par la suite. Là, c'était... Et puis alors, il fallait tout camoufler. Aucune fenêtre était ouverte, surtout la nuit, avec l'odeur d'huile des machines. Et tout. C'était absolument intenable.
Notre camarade Jean Guillou, qui est reporter de la Voix du Reich auprès des travailleurs français en Allemagne, notre camarade Jean Guillou passe quelques jours à Paris. Eh bien, c'est très gentil d'avoir pensé de passer à notre micro, car vous allez pouvoir nous donner des renseignements de fraîche date sur la vie de nos travailleurs là-bas.
Je vous dirais qu'en général, les travailleurs français se trouvant en Allemagne ne sont pas malheureux et ne se plaignent pas. Je dis en général, car vous devez bien penser qu'il y a toujours les râleurs qui ne sont jamais contents de leur sort et ceux qui ont tout de même quelques raisons de manifester leur mécontentement. Je dois dire d'ailleurs que ces derniers sont ceux qui se plaignent le moins. J'ai trouvé le plus de rouspéteurs, si l'on peut dire, dans les jeunes gens du service du travail obligatoire. Ces jeunes gens qui n'ont pas fait de service militaire ne sont pas encore habitués à vivre en commun et à supporter quelques privations dans le confort ou dans la nourriture. Pourtant, ne généralisons pas. Et je citerai pour exemple un lac des environs de Vienne que j'ai visité et dans lequel j'ai pu constater une mentalité excellente. D'ailleurs, chaque travailleur avait accroché à la tête de son lit la photographie du maréchal.
Eh bien, vous voyez, ce que vous nous dites là confirme ce que tout le monde nous dit, à savoir que partout où les ouvriers français savent s'imposer les disciplines de la vie communautaire, partout leur vie est grandement améliorée.
En France, début 1944, malgré la propagande allemande, le nombre des réfractaires au STO devient considérable. Pour ne pas partir en Allemagne, beaucoup de jeunes rejoignent les maquis, et Sockel devient malgré lui un des principaux agents recruteurs de la résistance. Certains dirigeants nazis eux-mêmes en sont conscients, mais les besoins de l'Allemagne sont tels que début 1944, Sockel augmente ses exigences. Il réclame maintenant 1 million de travailleurs français et mobilise les collaborateurs, transformés en chasseurs de primes. Les partisans de Déa, de Doriot et les miliciens assistent les troupes d'occupation pour débusquer les réfractaires et traquer les jeunes partout où ils se trouvent. Le 5 février 1944, à Decize, dans la Nièvre, une centaine de jeunes sont ainsi raflés à la sortie d'un bal. Parmi eux, Roger Jaillot.
Le 5 février, le bal est organisé. Banquet, bal parquet à l'orée d'un bois, en pleine campagne, mettons à 3 ou 4 kilomètres du centre-ville. Et puis alors, ça dansait, et ainsi de suite. Il y avait une sacrée ambiance, parce qu'à minuit, tout le monde chantait la Marseillaise. Et à ce moment-là, je me suis trouvé à sortir, j'ai vu un civil qui n'avait pas une tête de Français, un grand gaillard, et qui était là à la porte et qui regardait ce qui se passait. Et dans l'espace d'un quart d'heure, on était encerclés, ils ont tiré des rafales de mitraillettes sous le bal, pour nous faire peur, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés, il y en a eu deux quand même, dont un sérieusement. Et alors là, à ce moment-là, ils nous ont fait sortir manu militari, et je peux vous dire que, homme ou femme, personne n'a pas été corrigé. C'était des coups de poing sur la figure, c'était des coups de crosse de fusil, et ils nous faisaient aligner, ainsi de suite. On a commencé à subir un véritable calvaire, parce qu'ils nous ont mis en colonne par quatre, et puis ils nous ont dirigés vers une caserne, dans les coins de la cour. Ils nous ont distribué un petit morceau de pain, gros comme ça, il y avait 50 grammes de pain. Et puis l'Allemand, qui était donc l'Allemand civil qui était à la porte du bal, il a commencé à nous haranguer de vertement, et puis enfin, il nous a promis les camps de concentration. Et ils nous ont dirigés sur la gare. Et nous n'étions pas sortis de la caserne, qu'il y a un père de famille qui a voulu approcher son fils qui était sur le bord du rang pour lui dire au revoir. Alors il y a un Allemand, parce que les Allemands, il y en avait tous les deux mètres. Il y a un Allemand qui a pris la crosse de son fusil, qui l'a flanqué en pleine poitrine et qui l'a allongé au sol. Et puis il y a une autre chose aussi qui s'est passée, un boulanger qui a voulu lancer un morceau de pain quand la colonne défilait. Eh bien, il a été incorporé dans les rangs aussitôt et puis il est parti en Allemagne avec nous.
Philippe Henriot, 25 février 1944.
C'est à vous que je veux m'adresser ce soir. Jeunes gens de France qui portez aujourd'hui avec un cœur anxieux et douloureux ce titre de réfractaire où vous n'aviez voulu mettre que la révolte spontanée d'un patriotisme troublé. Presque tous, vous employez le même argument. Vous voulez bien travailler pour la France, vous ne voulez pas travailler pour l'étranger. Surtout, vous ne voulez pas travailler pour l'Allemagne qui nous a vaincus, qui porte à vos yeux parfois la responsabilité de la mort d'un être cher, d'un ami, d'un frère, d'un père. Vous devenez des objecteurs de conscience en prétendant vous refuser à certaines disciplines que la patrie vous demande. D'ailleurs, lorsque vous me dites « nous voulons bien travailler en France, nous ne voulons travailler que pour la France », ne comprenez-vous pas que même si vous travailliez en France, vous travailleriez obligatoirement, au moins en partie, pour cet étranger, puisque nos usines et nos champs lui fournissent ce dont il a besoin ? Mais qu'aussi, en travaillant en Allemagne, vous travaillez pour la France, puisque c'est un labeur qui permettra à la France de faire un jour valoir en sa faveur les droits que vous lui aurez acquis.
Fritz Sauckel.
Das deutsche Volk blickt bestimmt nach Frankreich und hofft, dass auch die französische Nation sich durch Arbeitsleistung wieder einen Platz und ein neues Leben erringt.
Le peuple allemand regarde du côté de la France et espère que par son rendement, par le rendement de son travail, elle acquiert et conquiert de nouveau sa place qui lui est venue.
C'est une machine, une grosse machine. Au moins deux étages de haut et moi devant, en plein milieu. Une presse chauffante, c'est. Pour chauffer, elle chauffe. On y met dedans de la poudre de bakélite, on y met des cornets en ferraille. Des petits, des grands, les petits dans les grands. La bakélite fond et remplit l'espace entre les deux cornets. On démoule, pof, ça fait des fusées d'obus. Je suis debout devant la machine, juste au milieu. À ma droite, j'ai Anna. À ma gauche, j'ai Maria. Anna prépare les cornets de tôle sur une espèce de plateau rond avec des trous étudiés pour, lourds comme le diable, que le moment venu, j'enfilerai dans le ventre de la machine, moi, l'homme. Moi, le costaud, moi, le cerveau. Maria extrait du plateau que je viens de sortir de la machine les croque-monsieur fumant, tôle, bakélite, tôle, en forme de fusée d'obus. Pouf. bon Dieu que ça pue. Abteilung 46, section 46. 20 monstres comme celui-là. Devant chaque, un petit Français palichon, maigrichon, flanqué de ses deux bonnes femmes. Cavana.
En arrivant en Allemagne, le premier travail, ça s'est passé sur le ballast. Et le ballast au mois de février, en arrivant, il fallait balayer la neige pour tasser les cailloux sous les traverses de Spanfer, pour rehausser la voie. Et à ce moment-là, nous étions avec des prisonniers russes. Et il y avait deux Français d'un côté, deux Allemands de l'autre, et on travaillait en cadence, suivant l'Allemand, qui d'ailleurs c'était un Prussien, on l'appelait le Prussien. Aussitôt qu'il comptait, il fallait que le pic tombe pour tasser les cailloux et remonter. Et c'était ein, zwei, et puis il n'y avait pas d'histoire, il fallait suivre la cadence. Alors là, je dois dire que vraiment, c'était le bagne. D'autant plus que mes collègues n'en ont pas parlé, mais nous avions un repas par jour. Le matin, ils nous distribuaient un morceau de pain avec un morceau de margarine, une tasse de tisane, et on avait droit à un repas le midi ou le soir. Bon, ben, le midi, on était au travail, on faisait 4 à 5 kilomètres aussi à pied pour aller travailler. Pas question de revenir, et puis de toute façon, le soir, on n'aurait rien eu. Alors là, on a eu des exemples de solidarité quand même. Les prisonniers russes, voyant ce qui nous restait, ils avaient, eux, c'était une soupe. Hein, y avait pas, c'était une soupe de rutabaga, une soupe de flocons d'avoine. Mais c'était chaud. Et ils nous distribuaient dans une boîte de conserve, et ils nous donnaient une louche de leur soupe, quoi.
L'alimentation et la rémunération des travailleurs étrangers doivent être proportionnelles à leur rendement et à leur bonne volonté. Tous ces hommes doivent être nourris, logés, traités de telle manière qu'on les exploite au maximum avec le minimum de frais. Fritz Saukel.
Comment voulez-vous que c'est ? Nous avions 20 hommes.
Robert Jordi.
La plupart, c'était des étudiants. Moi, j'avais une formation de comptable à l'époque. Je commençais à travailler. Et nous voilà devant des tours. Qu'est-ce que vous vouliez que nous apportions à la production à demande ? Non, je vous le demande. Et puis avec l'esprit que nous avions. Bon, moi, je ne parle pas général, je me parle à titre individuel. J'ai toujours été une tête brûlée là-bas. Bon, c'est comme ça qu'on m'appelait. Eh bien, toutes les pièges, je me rappelle, j'étais sur un tour, je faisais du filetage. Eh bien, je me suis grondé, je me faisais engueuler par le maïster qu'on appelle le contremaître à l'époque. On travaillait à la chaîne. Cette pièce, allez, c'est relance. Et il arrivait que, malheureusement, s'il est vrai, par peur, il y avait des gars, des Français qui faisaient le travail qu'on leur demandait parce qu'ils étaient capables et puis ils le faisaient parce qu'ils avaient peur. Ils attendaient après parce que les pièces n'arrivaient pas, parce qu'on arrêtait. Et je vous assure qu'on perd, moi personnellement, j'ai été pris par un ingénieur qui parlait le français, qui avait été prisonnier de guerre en 14-18, et qui nous en voulait réellement, et qui nous a dit qu'il allait nous en faire baver. Là, les conditions de vie, alors de 12 heures de jour, 12 heures, on n'a rien apporté, véritablement, quand on dit à la production allemande, vous savez, moi, personnellement, je n'ai rien apporté du tout.
Usine de Steingutwerke de Munich. La façon de travailler des Français est si peu satisfaisante que la direction est forcée d'intervenir. À partir d'aujourd'hui, le salaire des Français sera fonction du rendement. Usine de locomotives de Wildau. La fainéantise a, dans les derniers jours, montré une telle étendue que la marche de notre production dans beaucoup d'endroits de nos ateliers est mise gravement en doute. Il s'est trouvé que l'absence de l'un ou l'autre ouvrier français a causé une période d'inaction de tout un groupe de travailleurs. Les dommages en résultant, ainsi que le retard mis dans l'achèvement de nos locomotives, sont de cette sorte si sérieux qu'à l'avenir, nous devrons interpréter les absences au travail sans excuse comme des tentatives de sabotage.
Le sabotage, ça consistait en quoi, Cavana ?
Bon, vous êtes sur une presse, vous avez une minuterie que vous remontez, vous enfournez. Les gestes sont très précis et très rapides, or c'est très dur, très pénible. Vous enfournez. La sonnerie avertit le quantité de fois défourné. Vous défournez, vous en allez vous retirer, vous rechargez, tac, tac, tac. La sonnerie vous avertit vous dépassez le temps de la sonnerie, vous n'êtes pas prêt, par exemple. Alors, il faut refoutre la sonnerie à zéro. Au bout de quelques temps, le contremaître commence à venir. Enfin, bref, on arrive comme ça à je sais pas, moi, au lieu de faire 50 caisses par jour, on arrive à en faire que 20. C'est... Puis alors aussi, faire des pièces qui ne sont pas valables, qui sont refusées au contrôle. Il y a des tas de trucs.
Usine Auto-Union de Zygmar Chauneau. On ne cesse de constater que la plupart des ouvriers français fument dans l'atelier, retiennent le travail, dorment dans l'atelier pendant la journée, dépassent le temps de pause, ne sont pas exacts ou qu'ils manquent leur place sans excuse, ou qu'ils s'en tirent par des faux fuyants.
L'expression « filou », pour parler des Français, tous les contremaîtres, c'était généralement le terme qu'ils utilisaient, les Français sont des filous. Car rapidement, on s'est rendu compte que la seule solution que nous avions, c'est de donner l'illusion de travailler, et parfois même, combien de fois je me souviens que mon contremaître me disait « Attention Johan, filou, filou, Strafflager !»
Alors évidemment, les cheveux s'en apercevaient, la Gestapo allait, parce que toutes les usines de guerre étaient placées sous le contrôle direct de la Gestapo. Et dans les usines, il y avait ce qu'il y avait des Werkschutz, c'est-à-dire les gardes d'usine, qui se baladaient tout le temps. Or, ces mecs-là étaient tous affiliés à la Gestapo. La Gestapo avait le contrôle absolu de toute la production de guerre, la surveillance. Eh bien oui, ben, c'était très dur. Moi, j'ai vu des filles russes, des Ukrainiennes, faire grève. Ça, évidemment, Arbeitslager. Et puis, sur une douzaine, il y en a deux qui sont revenus, tout le reste était tué là-bas.
À la fin de la guerre, il y a en Allemagne une centaine de camps de rééducation par le travail, les AEL, où les conditions sont comparables à celles de certains camps de concentration. Des milliers de travailleurs du STO vont y laisser leur vie. Saboteurs, fortes têtes, résistants ou membres de la jeunesse ouvrière chrétienne dont l'action est interdite par les Allemands. Henry Braun.
Alors effectivement, ces camps-là, alors là, c'est atroce. D'abord, déjà, il fallait passer par la prison, environ 15 jours, 3 semaines. J'avais été arrêté pour sabotage. Là, dans ces camps, on n'avait que le matin et le soir une gamelle d'eau noire, et le midi, c'était de l'eau de choucroute qui où traînait des fois un brin de choucroute, et c'est tout ce que nous avions pendant 3 semaines. Alors là nous avons maigri, et c'était à vue d'œil. En ce laps de temps, j'ai maigri plus d'une vingtaine de kilos, 25 kilos, puisque je suis passé sous la barre des 40 kilos. Et malheureusement, la plupart des copains restaient que très peu de temps, ils mouraient vite. Heureusement que j'avais une constitution très solide de sportif, mais autrement je ne m'en serais pas sorti. Ça serait terrible. Je ne veux que jamais plus cette chose affreuse ne vienne.
En 1945, les STO voient leurs conditions de vie s'aggraver. Pris au piège, dans un Reich qui agonise, ils sont totalement coupés de la France et souffrent de la faim, de la maladie et des bombardements alliés. Certains parviennent à s'évader, comme Robert Jordi, qui rejoint la résistance tchécoslovaque. Les autres attendent les Américains ou les Russes pour être rapatriés en France, où leur retour est organisé par Henri Freinet, ministre des prisonniers et déportés. Personne, en effet, à l'époque, ne distingue ces trois catégories de Français qui reviennent d'Allemagne. Les déportés raciaux et politiques, qui ont le plus souffert, les prisonniers de guerre, et ceux que l'on appelle alors les déportés du travail.
Le premier groupe des prisonniers libérés passe devant les jeunes d'un bataillon de l'air qui présentent les armes. Et les libérés vont maintenant se rafraîchir et manger un sandwich à la buvette. Des camarades, anciens prisonniers, des jeunes filles de la Croix-Rouge, tous bénévoles, portent leurs valises, leurs paquetages. Ils sont libres. Des camions les emmèneront vers le Gaumont où ils pourront se restaurer, assister à la projection d'un film et des actualités. Il faut bien se mettre au courant de la vérité. La foule sur leur passage salue, pleure, lance des cigarettes ou des baisers. Ils répondent en saluant de la main, en souriant. Paris connaît maintenant la joie de ceux qui reviennent. Nous voici déjà à la gare d'Orsay, décorée dans la salle d'accueil des grands drapeaux des nations alliées qui pendent de la verrière. Nous voyons le drapeau rouge,
je sais que je suis passé par la gare d'Orsay, comme beaucoup d'ailleurs.
Jean Chaise.
Il y a eu une espèce de tri, là, ici. On a été désinfecté, on a eu pas mal de choses, des interrogatoires, etc. C'était normal. Et puis je suis arrivé à Saint-Chamond, où ma famille m'attendait, parce que elle avait été avertie que j'arrivais. Je suis arrivé donc le 23 mai, accueilli. On m'a remis ce jour-là un certain nombre de documents, en particulier un petit livret qui était le guide du jeune déporté. Bon, on m'a expliqué à ce moment-là que la résistance, que de Gaulle nous considérait, nous les travailleurs, comme des jeunes déportés. Et puis la vie a repris comme ça, quoi.
Lille, tout le monde descend. J'essaie de me répéter avec émotion que je suis en France. M'en fous. Une caserne. Là, c'est sérieux. Un militaire à gueule de contremaître Fayot épluche mon cas. STO ? Ils disent tout ça. Pas volontaire, des fois ? Non. Vos papiers ?
Oui.
Tout perdu ?
Oh !
Le juteux me reprend en main. Vous savez que vous aurez à remplir vos obligations militaires. On vous dressera le poil. Quand êtes-vous né ?
Février 1923.
Classe 43, hein ? La seule classe exemptée de service militaire, comme par hasard. Vous devrez le prouver, mon gaillard.
D'accord, monsieur. D'accord. Une fois chez moi, ça sera facile.
Appelez-moi mon adjudant. Non, monsieur. Je suis pas trop fion, moi. J'ai rien à foutre avec vos conneries. Je me fous de tout. Tout un goût de merde. Tout un goût de mort. Cavana.
François Cavana, depuis leur retour en 1945, les travailleurs du STO se considèrent comme des déportés du travail. Or, d'autres, estimant que le sort des travailleurs français en Allemagne n'a rien à voir avec celui des déportés politiques ou raciaux, pensent que les gens du STO ne peuvent pas se considérer comme des déportés. Est-ce que vous, Cavana, vous vous considérez comme un déporté ?
Mais bien sûr, je suis pas allé de bon cœur. Je suis pas allé pour gagner du fric, je suis pas allé... On m'a forcé, on m'a embarqué. Et ça, je le gueulerai jamais assez fort, et je ne vois pas cette polémique merdeuse. Et vous, on n'est plus déporté que vous, nous, non, assez... Mais nom de Dieu, moi, j'ai été coincé au début, j'ai été eu par surprise, comme beaucoup d'autres.
Nous nous considérons comme des victimes. Et c'est vrai, nous sommes une génération qui avait sacrifié. C'est toute une génération de jeunes de 20 ans. Notre jeunesse, c'était une jeunesse de la guerre. On avait, en 1939, je m'en souviens toujours, moi, j'avais 17 ans. Bon, eh bien, quand je suis revenu d'Allemagne en 45, vous voyez tout de suite que j'avais 22 ans. Bon, on n'a jamais connu la liberté, on n'a jamais connu dans notre jeunesse. Donc, nous sommes des victimes. Des victimes de la défaite, des victimes de la dépendance du travail, c'est sûr. C'est tout, nous sommes victimes d'une situation qui a été celle d'un pays qui a été battu.
Après, j'étais pendant plus d'une trentaine d'années malade. Je ne pouvais plus rien faire.
Henri Braun.
J'ai surmonté parce que je ne voulais pas penser à ça. Je ne voulais pas. Maintenant, la santé m'est revenue. Maintenant, c'est une deuxième jeunesse. Mais je dis que j'ai gâché complètement ma vie. Et pourquoi ? Et alors, quand je vois certaines catégories qui nous critiquent, moi, j'ai connu, je veux vous dire, dans les AEL, ces fameux camps disciplinaires, combien de camarades ? On parlait des JOC, les Jeunesses Ouvrières Catholiques. Savez-vous que sur 40 qui s'étaient fait arrêter, 33 sont allés en camp de concentration, 7 sont allés en AEL, ces 7 sont tous morts entre un mois et un mois et demi de présence dans le camp. Et les noms, je les ai, les noms, dans nos camps, quand je vois tous ceux que j'ai vus, les pendus dans mon camp, et quand je vois... Quand je vois des gens qui veulent nous, les gens qui veulent dire qu'eux ont été malheureux. Attention, pas confondre avec les camps de concentration, avec les camps d'extermination. Il y en a 4 ou 5 camps d'extermination. Mais les autres n'étaient pas des camps d'extermination. On y mourait beaucoup. Oui, on y mourait beaucoup. On a tous souffert. On a tous souffert du nazisme. Alors, ne arrêtons toutes ces disputes qui ne servent strictement à rien. Et que jamais plus, on fasse quoi que ce soit. Quand je pense à un maire du côté du bassin d'Arcachon qui interdit la présence de notre drapeau au monument aux morts, Alors quand on voit ça, c'est une honte. Honte.
Il y a quand même une chose que je ne m'explique pas, moi.
Roger Jaillot.
C'est que les déportés politiques, qui nous considéraient comme des frères au retour d'Allemagne, puisqu'on mettait, on disait, il y avait des affiches de propagande qui disaient « Ils sont unis, ne les divisez pas ». Il y avait un soldat prisonnier qui était de retour, un déporté politique et à ce moment-là, un déporté du travail, parce qu'on pouvait s'appeler déporté du travail. Et je ne m'explique pas que des gens qui ont souffert comme ils ont souffert en Allemagne, je parle des internés et déportés politiques, nous tirent dans les jambes comme ils le font en ce moment. Je vois pas pourquoi, ce que ça pourrait leur faire. Moi, ça m'est égal de m'appeler déporté ou victime ou ainsi de suite. Mais je vois pas ce que ça pourrait leur faire que nous nous appelions déportés du travail et eux, déportés politiques. Leurs souffrances sont pas comparables aux nôtres et ils ont souffert beaucoup plus que nous. Mais c'est pour une raison, pour faire ce qu'ils font en ce moment.
Pour certains, nous sommes l'homme.
Robert Jordi.
Il y a 600 000 Français, n'oublions pas qu'ils sont partis en Allemagne. Et à ce moment-là, alors que maintenant, ils disent, mais vous n'auriez pas dû partir. Alors, ils essaient d'étouffer, de nous étouffer, parce que c'est ça le problème. On ne veut pas parler de l'histoire de la déportation du travail. Maintenant, évidemment, on ne peut pas comparer notre épreuve avec les concentrationnaires, toutes sortes de concentrationnaires déportés politiques. Oui, mais il faut pas quand même barrer d'un seul coup de notre histoire qu'il y a eu une déportation du travail. Ça, il faut pas l'oublier.
C'était le STO, avec les témoignages de François Cavanna, Jean Chaise, Roger Jaillot, Henri Brown et Robert Jordi. Texte dit par Christian Ruchet, avec Christine Cirézol. Archivina et documentation, Philippe Caffin, Annie Saunier, Rebecca de Nantes. Mixage, Agnès Varnier, Frédéric Quéroux. Assistante, Véronique Lamandour. C'était l'Histoire en direct, une émission de Patrice Gélinet, réalisé par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 décembre 1993.